médical, hein, thérapeutique, et nous disons non, surtout pas peine et thérapeutique associées dans l'énoncé, que la peine s'appelle peine de suivi socio-judiciaire, et que parmi les mesures offertes à l'auteur d'infractions à caractère sexuel en alternative ou après sa détention, on prévoit, si les experts en ont posé l'indication, une obligation de soins. Peut-être un peu compliqué, mais enfin, je ne sais pas si vous suivez le type de démarche. Nous avons finalement obtenu gain de cause sur la majorité des points que nous précisions, c'est-à-dire maintien absolu du secret médical. Il n'y a pas de disclosure, il n'y a pas d'accès direct au dossier de soins de la part du médecin qui sert de pivot et qui est lui le partenaire du juge, qui s'appelle le médecin coordonnateur, qui est désigné par le juge et qui valide le médecin traitant choisi par le patient. Et en somme, c'est une chose qu'on avait mis en place au SMPR avec Gravier depuis déjà quelques années, qui était expérimentale à l'époque, où pour protéger le secret médical et quand même donner l'information qui intéresse le juge, nous répondions-nous en termes oui, non, ce patient est ou n'est pas dans le cadre de son obligation de soins, il est ou il n'est pas en quelque sorte dans la ligne morale fidèle à ce qu'on peut attendre d'un patient qui coopère et qui est compliant. Et le vrai traitement lui-même était déroulé avec un autre médecin qui, lui, était libre de tout contact judiciaire et qui pouvait garder donc la vraie relation de soins. Vous comprenez bien que c'est essentiel parce que si un pédophile vient me dire « Vous savez, docteur, je suis inquiet parce que je recommence à tourner autour des maternelles et que je décroche mon téléphone en disant au juge « Vite, faites quelque chose !» Il tourne devant les maternelles, bien, plus personne ne me dira rien. Et ça, c'est normal. Il faut qu'on puisse avoir confiance quand même dans le médecin. Ça ne veut pas dire qu'on accueille n'importe quoi. Car quand je prends en charge un délinquant sexuel, si je lui dis « Vous pouvez tout me dire », ça n'est pas pour lui dire « Ne vous respectez pas et ne me respectez pas ». Je ne vais pas lui dire « Jouissez en recommençant à vous masturber devant moi comme vous l'avez fait devant les enfants ». Et s'il me prend en otage en me disant « Si vous saviez comme c'est bon », je lui dis « Stop, où vous croyez ?» On n'est pas là pour rejouer, on est là pour parler de ce qui se passe en vous. Donc il n'y a pas d'embargo sur la technique, si vous voulez en parler, mais à condition que vous en parliez en termes élaborés dans le sens du soin et non pas dans la répétition imaginaire de ce qui se passe. Cette parenthèse refermée, donc pour vous dire que on peut accueillir beaucoup de choses de la part d'un pédophile, mais on ne va pas immédiatement répercuter son droit à parler de ses fantasmes, sinon il n'y a plus de soins possibles. Donc ça nous apparaissait extrêmement intéressant d'avoir ce médecin pivot, coordonnateur. Mais ils n'ont pas pu résister au dernier moment en rédigeant la loi. Ils ont mis qu'il y avait une dérogation nouvelle au secret professionnel pour le médecin traitant, qui a le droit, lui, d'appeler le juge directement pour dire, non pas ce qui se passe, mais le patient ne vient plus, ou le patient n'est plus dans le soin tel que je le conçois, ce qui invalide complètement l'ensemble du système. Donc vous voyez qu'on a bien du mal à essayer de comprendre, de faire comprendre à nos interlocuteurs du monde judiciaire, à nos interlocuteurs de la société civile, que nous ne tirons pas contre eux. Nous ne sommes pas les alliés objectifs de la délinquance, mais nous sommes les alliés objectifs de nos patients, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et nous défendons quelque chose qui est bien plus important pour la société et qui est bien plus important pour l'ensemble de la qualité de civilisation dans laquelle nous sommes et qui prétend justement proposer ces mesures. Nous défendons quelque chose qui n'est pas opposé forcément à la défense sociale, mais dont la défense sociale ne peut pas se passer. On ne peut pas faire l'impasse sur l'éthique pour obtenir l'efficacité technique. Ça, c'est toujours une grossière erreur et il faudra s'en méfier, quel que soit le type de texte qu'on vous propose. Il faut garder un certain esprit critique. Alors, ceci étant, on a encore d'autres possibilités que va nous sortir de ces tiroirs la commission, le Conseil de l'Europe, et entre autres le soin ambulatoire sous contrainte. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque. Et jusqu'ici, il n'est pas question de le faire en détention. Les textes européens n'ont pas prévu, ont même au contraire prévu pour l'instant, mais ce n'est pas encore fini puisque c'est en cours d'élaboration, que le champ de la prison serait exclu du soin ambulatoire sous contrainte. Ça se discute. Est-ce qu'il faut... moi, je pense qu'à partir de tout ce qu'on a avalé comme pilule précédemment, on pourrait très bien l'instituer. À condition que l'on prévoie un corps de contrôle qui soit réellement efficace. À condition que l'on prévoie des procédures d'appel sur cet aspect spécifique de la détention qui soient bien cadrées et qui permettent qu'une autre, un autre œil évalue le soin, un autre œil que celui qui est engagé dedans. Et il n'est pas normal que je sois à la fois le prescripteur et l'évaluateur de ce soin. Autant j'ai toujours soutenu que l'expertise n'était pas un geste antithérapeutique et qu'elle pouvait déboucher sur des prises en charge. C'est très courant qu'un patient qui a été expertisé par moi ou par quelqu'un d'autre vienne dire « Docteur, ce qui s'est passé dans l'expertise, ça m'a ouvert les yeux, j'ai envie de continuer avec vous. » Ce n'est pas incompatible d'avoir cette position. Mais être en même temps l'expert et le thérapeute, tout le monde l'exclut, les textes l'excluent, et je crois que c'est une bonne chose. Donc, là, nous sommes placés dans ces positions d'évaluation qui sont un petit peu ambiguës. Pourtant, vous trouveriez normal, vous, que quelqu'un qui a une hanche artificielle ou qui a connu un accident de voiture sérieux et qui ne peut plus monter les étages, dise « Docteur, faites-moi un certificat comme quoi je suis en soins pour que j'aille dans l'établissement de Liancourt où je trouverai de la kiné à tel endroit et où je serai... Bien sûr, qu'à cela ne tienne, cher ami, monsieur un tel présente tel type de fracture, tu as été soigné de telle et telle façon, et hop, voilà. Bon. Docteur, vous êtes en psychothérapie avec moi, ou je suis en psychothérapie avec vous, comme vous voulez, depuis un certain temps, pour mon infraction à caractère sexuel, vous savez que je vais mieux, on en a parlé, je suis bien, je mentalise bien. D'accord, oui, c'est vrai, vous allez beaucoup mieux depuis 2 ans. Bon, alors, donnez-moi un papier pour le juge d'application des peines. Ah, vous n'y pensez pas, cher ami. Attendez, alors il y a des soins où il est licite de donner un certificat, puis il y en a d'autres où c'est pas licite. Hein? Eh oui, mais d'un autre côté. Alors si on refuse de donner les soins à ceux qui vont mal, on saura de donner les certificats, on saura que ceux qui n'ont pas de certificat, c'est que ça va vraiment pas bien. Si on donne des certificats qui sont seulement des certificats de présence, on n'aide personne. La question n'est pas résolue. Et j'avoue que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il est légitime d'être relevé du secret quand on est interrogé par l'expert de la part du patient, c'est pas la même chose que la situation de tout à l'heure où l'expert allait se servir dans le dossier. Vous voyez bien que là aussi, étant donné que le patient a accès à son dossier médical, il peut demander que son médecin traitant aille lire son dossier hospitalier et y trouver les notes qu'il veut. Donc ce sera perversion de ma part si je ne mets rien concernant son traitement dans son dossier. Vous voyez qu'il y a encore là une interrogation qui va se poser. Comment être dans le droit fil du respect de l'indication thérapeutique, du respect de la défense sociale, du respect de la personne, et beaucoup plus que les techniques de soins, je vous avouerai que ce sont un peu ces choses-là qui me préoccupent en ce moment. Alors, je terminerai peut-être sur une petite note optimiste en pensant que malgré tout, la réflexion finit toujours par porter ses fruits. Vous savez qu'en 1996, la Russie a commencé à sonner à la porte de l'Europe. J'ai lu ce matin que Boris Eltsine venait de commuer les 762 condamnés à mort qui étaient en présence sur le territoire russe et que ça correspondait de fait à l'abolition de la peine de mort en Russie que nous demandions au Conseil de l'Europe. Je crois que ça pourrait être une note optimiste pour conclure.
Déborder sur le débat de fin de journée. Je propose à l'Assemblée de poser quelques questions, les questions techniques et d'autres informations. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole?
De toute façon, je suis là dans la journée. Hein.
Très bien. Oui, Danilo.
Déjà, enfin, remercier le docteur Lamotte pour son brillant exposé qui m'a beaucoup stimulé. Et puis dire une chose, parce que je crois qu'il faut aussi de temps en temps témoigner. Je crois que vous avez bien situé une pensée élaborée par rapport à un problème qui, dans notre pays, était longtemps sous-estimé. Et l'arrivée de Bruno nous a beaucoup aidé à faire le pas. Et c'est vrai que Bruno nous a apporté aussi des modes de pensée et de réflexion qui vont dans le sens de ce que vous nous avez aussi précisé ce matin. Et là, j'aimerais vous remercier les deux parce que c'est un grand apport dans notre microcosme socioculturel roman, et notamment vaudois. Pendant très longtemps, il y a eu une espèce d'emprise de la psychiatrie, et plus particulièrement de la psychiatrie psychanalytique. Moi, j'aimerais témoigner que quand j'étais assistant ici, ou chef de clinique au centre psychosocial à l'époque, il y a une bonne vingtaine d'années, on avait des règles qui étaient aux antipodes de ce que vous nous apportez. Il y a une sorte de couvercle qui nous empêchait de penser d'une certaine façon. Et on avait besoin de développer ce type de pensée. Et justement, cette réflexion sur quel certificat, comment, dans quelles conditions, même si on n'a pas de... Ouais. Effectivement, le fait de savoir qu'il n'y a pas de règle, le fait de savoir qu'on n'a pas de réponse, mais qu'il y a un mode de réflexion hein, qui nous aide de cas en cas à faire le mieux possible au plus près de la conscience, c'est quand même quelque chose de précieux.
Alors, les textes européens recommandent qu'il y ait une autorité de nature sanitaire, quel que soit son mode de fonctionnement, indépendante de la justice qui inspecte les prisons. Alors, c'était une espèce de serpent de mer aussi chez nous. On a réussi à l'obtenir en l'année 83, où, malgré la sympathique médecin inspecteur général de l'administration pénitentiaire de l'époque, on a pu faire passer l'inspection à l'IGAS. Mais on savait bien que tôt ou tard, l'administration reprendrait d'une main ce qu'elle avait donné de l'autre. Elle a commencé en faisant des psychologues régionaux, qui donc n'appartenaient déjà plus au corps sanitaire, étaient déjà rattachés à l'administration pénitentiaire, et dont la mission devait être soi-disant de... mais qui en fait ont des missions qui dépassent l'appui au personnel et commencent à être du soin. Et maintenant, nous avons découvert depuis quelques jours qu'il y a un médecin inspecteur à l'administration pénitentiaire, soi-disant destiné à s'occuper exclusivement de l'hygiène et des bâtiments, mais qui est venu inspecter ma prison et qui a commencé à dire, au fond, ben ça c'est normal, disant au directeur, oui ça je comprends qu'avec votre petit budget, vous ne puissiez pas améliorer la ventilation des douches. Alors si le médecin inspecteur commence déjà dans le compromis de cette façon-là, il est retourné dans le camp de l'administration pénitentiaire avec tout ce que cela comporte d'efficacité, de dignité et de... Mais je crois que ça ne doit pas être un médecin qui fait ça. Ça doit être on peut très bien inspecter et faire les compromis budgétaires en laissant les médecins dans le camp des médecins. Les médecins peuvent faire les compromis de réalité, mais ils ne sont pas au niveau de ce qu'ils expriment à être dans la compromission. Ils n'ont pas à être dans la compromission. Alors ça, je crois que c'est important qu'on défende ce corps. Dans tous les pays, qu'il y ait une façon possible à des médecins de l'administration sanitaire de se saisir de problèmes. Et en cas de litige sur une affectation, en cas de litige par exemple sur une hospitalisation au milieu civil, imaginez qu'un médecin hospitalier chez vous, par exemple, ça peut être le cas, refuse l'admission d'un détenu. Je crois que comment fait-on pour que le médecin traitant qui est en prison et qui constate l'inadéquation de la situation et recours à quelqu'un qui tranche. Bon, on s'est aperçu en France que le médecin inspecteur général de la santé n'avait pas le droit de provoquer des expertises. J'ai demandé, moi déjà à plusieurs reprises, en disant, ce monsieur, il doit quitter la prison parce qu'il n'est pas en état d'y rester. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un certificat disant que son état est incompatible avec la prison. Et puis si quelqu'un veut laisser ce certificat sous quelques coudes, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas me mettre en grève de la faim moi-même pour faire partir mon patient. D'ailleurs, la grève de la faim était un des cas qui mettait quelquefois la France au banc des accusés, de ce point de vue, puisqu'on avait autrefois l'article 310 du code de procédure qui certifiait qu'on devait nourrir les grévistes de la faim de force, qu'on ne les laissait pas mourir. Ça a servi à pas mal de choses. Ça nous a peut-être évité les problèmes des blocs H, où les Irlandais sont morts dans les grandes années de l'IRA en Angleterre. Et ça a aussi évité peut-être que certains... paumés pervertissent le dialogue, parce que la grève de la faim, c'est pas une parole toujours. Hein. Pour que ça reste une parole symbolique, il faut vraiment des conditions très spéciales. C'est souvent déjà une relation d'emprise, celle que je qualifiais hier en disant je suis important pour toi, donc je te tiens. Hein. Et ça évitait ça, puisque de toute façon, on savait qu'on mourrait pas dans la grève de la faim. Mais c'est qu'actuellement, les conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail des textes parce que ça serait trop long maintenant, mais on a aussi des changements de ce point de vue qui donnent à penser que tout mouvement d'un détenu sur son corps sera quelque part illicite hein, et par connu comme étant une façon de parler. Et le médecin, là, va être de nouveau dans une interface. Est-ce que respecter une automutilation ou est-ce que... Je ne peux pas dire que je respecte une automutilation. Je dis toujours à un détenu qui s'automutile que ce n'est pas une façon de parler. Mais est-ce qu'on va dire que c'est interdit officiellement de s'automutiler? Mais est-ce que je vais devenir auxiliaire d'une pathologisation de ceci? Dans quel sens et tout? Enfin bon, c'est compliqué comme situation.
Merci. Vous savez qu'au CRAP, on a l'habitude de faire intervenir différents regards sur un thème proposé. et entre autres le regard des spécialistes, mais aussi le regard des personnes concernées. Alors maintenant, c'est les personnes concernées qui vont avoir la parole, et je vais proposer à Josette qui va nous lire le témoignage de deux personnes qui sont sujettes à l'article 43.
Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Gérard et j'ai 57 ans. Cela fait 9 ans que je suis sous l'article 43 pour avoir une fois sodomisé mon fils de 7 ans. Pour en arriver là, je pense que tout est parti d'une insuffisance affective durant mon enfance et même au-delà. Auparavant, jamais il ne m'était venu à l'esprit d'avoir un comportement comme j'ai eu à l'approche de la cinquantaine. Comment s'est passé ce coup de folie? Un jour, avec ma femme et mon fils, nous avions décidé de monter à la cabane des vignerons pour y passer un week-end prolongé comme nous avions l'habitude de le faire. Malheureusement, cette fois-là, j'y étais allée seule avec mon fils, ma femme ayant été retenue par des rendez-vous. À ce moment-là, j'ai été la proie d'une crise profonde de solitude. Je me sentais également très proche de mon fils. La tendresse que j'éprouvais pour lui était immense. À un moment donné, alors qu'il jouait avec ses petites affaires, j'ai cru comprendre qu'il attendait quelque chose de moi, un bisou, une caresse dans les cheveux, bref, une marque de tendresse. Que s'est-il passé alors dans ma tête pour que cette marque affective tourne à l'acte sexuel? Ce dont je suis sûre, c'est que je ressentis le besoin de donner de l'amour à mon fils, comme si cet amour était la représentation de tout ce que je ne pouvais donner à ma femme parce qu'elle me le refusait. J'avais honte de ce qui allait se passer car tout à fait conscient, et pourtant je l'ai fait. Juste après et même par la suite, mon fils ne m'a jamais fait le moindre reproche, son amour pour moi n'avait pas changé. L'affaire a été portée au grand jour, quelque temps plus tard, mon fils ayant parlé à sa demi-sœur. Jamais je n'ai été attirée par l'autre sexe, ni même par les petits-enfants. Ce que j'ai fait a été un acte unique dans ma vie. Le tribunal m'a mis sous l'article 43 et m'a condamnée à 4 ans de prison ferme dans une prison du canton. Mais il s'est bien ravisé car il craignait pour ma vie en milieu carcéral au vu de ce que j'avais commis. J'ai été alors transférée à l'hôpital psychiatrique de Cerire pour une durée de 8 mois. Là, j'ai eu mon premier diagnostic psychiatrique. Suite à cela, le tribunal a pris la décision de me placer pour une durée indéterminée à l'EMS de la Sylvabel à Provence. Cela fait 7 ans que j'y vis. Dernièrement, je suis allée visiter un appartement accompagné de mon directeur. Je suis en attente d'une réponse. Actuellement, je vois encore la maman de mon fils et entretiens des bonnes relations avec lui. Tous les jours, je vais aux Grappes à Yverdon et j'ai l'intention de continuer d'y aller quand j'aurai mon appartement à Yverdon. Le fait que mon fils m'ait complètement pardonné et oublié les actes dont j'ai été incriminée m'a beaucoup soulagée. Je remercie l'Assemblée de m'avoir écoutée. Je m'appelle Flavio et j'ai 25 ans et cela fait 3 ans que je suis sous l'article 43. Tout a commencé à l'âge de 8 ans. J'ai perdu mon père, je n'avais pas de personnalité et je ne savais ni même où j'allais. J'ai commencé plusieurs stages pour trouver ma voie dans ma vie professionnelle. À chaque fois, je n'arrivais pas à me décider. J'ai commencé un apprentissage que j'ai échoué, n'ayant pas la capacité de suivre les cours. Je me suis retrouvée au chômage en juillet 1994. À cette époque, j'étais persuadée de retrouver rapidement du travail vu mon âge. En fait, je suis restée 8 mois sans rien trouver. En mars 1995, j'ai pété les plombs, comme on dit. Je ne savais pas comment appeler au secours. J'étais perdue, j'étais révoltée contre moi-même et ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Affaiblie psychiquement et n'ayant pas d'aide de ma famille, Je ne me suis pas senti assez fort pour affronter la pulsion dont j'étais l'objet à ce moment-là. J'ai donc bouté le feu au sous-sol de mon propre bâtiment. Je ne pensais pas et je ne voulais pas faire du mal aux autres à ce moment-là, mais bien à moi-même. Je ne me suis pas vraiment rendu compte que j'avais mis le feu. J'ai pris peur quelques jours plus tard, en sachant que j'avais fait ce que j'avais fait, et je n'ai pas eu le courage d'aller me dénoncer à la police, sachant ce qu'il allait m'arriver. Je me suis menti à moi-même en sachant très bien que ma pulsion allait réapparaître sans pouvoir la contrôler, ni même la limiter avant qu'elle arrive. Ce qui est arrivé en octobre de la même année, le même scénario. Mais cette fois-ci, la différence, que quelqu'un m'avait vue. Le lendemain matin, la police de sûreté est venue à la maison et je savais très bien pourquoi. J'ai dû faire 6 mois de préventive dans une prison du canton. Là, on m'a fait passer une expertise psychiatrique, un scanner et des tests psychologiques. Après qu'on m'ait posé un premier diagnostic psychiatrique, la partie civile a exigé une contre-expertise qui a eu pour conséquence que je sois transférée dans une prison comportant un secteur psychiatrique. J'ai donc passé encore 7 mois dans cette prison. Suite à cela, j'ai été placée dans l'EMS de la Sylvabelle à Provence. Grâce au directeur, M. Thérapon, et au soutien de toute l'équipe, j'ai pu travailler ma maladie, me rendre compte de ce que vaut la liberté. J'ai pris conscience que je voulais m'en sortir en devenant quelqu'un de responsable de ses actes. J'ai été mis pendant 3 ans à l'épreuve, ce qui n'a pas toujours été facile. Grâce à mes efforts, ma persévérance, j'ai pu progresser. Actuellement, je suis dans un studio protégé et je travaille tous les jours au Grappe comme responsable de l'atelier bois. Je m'occupe aussi à la confection des repas, à l'ordinateur, à la messagerie, etc. J'ai la tête pleine de projets, mais préfère ne pas en parler tant que certaines demandes sont encore en cours. Merci de m'avoir écouté.
Je crois qu'il y a encore un témoignage. Il va venir ? Oui, tu vas voir s'il veut le dire ou pas.
Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Michel et j'ai 43 ans. Comment me suis-je retrouvé sous l'article 43 ? Pour commencer, j'aimerais vous parler de mon adolescence, car c'est là que tout a commencé. Pendant ma scolarité, j'ai été l'objet de plusieurs atteintes à la pudeur par des hommes, de même que par ma grande sœur. Cela m'a beaucoup marqué. À la suite de cela, j'ai moi-même commencé à toucher des filles de mon âge. Je ne suivais plus les cours, je pratiquais l'école buissonnière. Cela n'allait plus. J'ai dû faire ma dernière année d'école dans une pension spécialisée afin d'effectuer un pré-apprentissage. J'ai été suivi par un psychologue, un psychanalyste et des éducateurs. Puis, je suis rentré chez mes parents. Mon père m'a alors trouvé une place d'apprentissage à Lausanne. Les choses se sont compliquées dès l'âge de 16 ans, et ceci jusqu'à 19 ans. J'ai touché des fillettes âgées de 3 à 6 ans, près de mon domicile et sur ma place de travail. Pour ces délits, des plaintes ont été déposées. J'ai dû comparaître 4 fois au tribunal des mineurs, où j'ai eu des peines de 3 à 9 mois d'emprisonnement avec sursis dans des centres spécialisés. Pendant mes actes délictueux, je n'ai ressenti aucune culpabilité, mais du plaisir. Ce n'est qu'après que j'ai ressenti un malaise devant la police au tribunal. J'ai commencé sérieusement à me rendre compte de ma culpabilité. Je me suis senti affaibli moralement. Depuis, je n'ai plus jamais eu de tels comportements avec les fillettes. Après mon école de recrue, je me suis mis à boire beaucoup. J'ai aussi perdu mon travail. J'ai eu des problèmes avec l'assurance chômage qui, du jour au lendemain, ne m'a plus rien versé, car j'avais refusé 2 emplois de suite. Ces tâches étaient trop dures pour moi. Je suis resté 9 mois sans travail, sans plus d'argent pour me nourrir. J'ai alors commencé à voler dans les caves, dans les voitures, les collèges. Et ce qui devait arriver est arrivé. La police m'a pris un jour sur le coup. J'avais 20 ans. J'ai dû faire 33 jours de préventive pendant l'enquête. À ce moment-là, je refusais de collaborer avec la sûreté et sous l'influence des menaces, j'ai tout avoué, même des délits que je n'avais pas commis. Au jugement, on a voulu me placer dans un foyer de réadaptation au travail. J'ai refusé et proposé à mon avocat de me mettre sous tutelle. Le juge a accepté ma demande. J'ai eu droit à 2 articles de tutelle, dont l'article 43 plus 6 mois d'emprisonnement avec un sursis de 2 ans. Tous ces problèmes avec la justice m'ont révolté et fatigué. J'étais alors très agressif. Suite à cela, je suis entré volontairement à l'hôpital psychiatrique de Bellevue où j'ai passé 2 années. C'était la première fois que m'on apportait un diagnostic psychiatrique. Schizophrénie, puis j'ai été placé dans des EMS jusqu'à l'âge de 38 ans. Actuellement, je suis toujours sous l'article 43 et vis dans un appartement. Je fréquente tous les jours le Grappe à Yverdon où l'on m'a donné la responsabilité de l'atelier Missoupli. Je me sens bien dans ma peau. Merci de m'avoir écouté.
Je remercie ces témoins, ces porte-parole de témoins qui nous montrent là un bel exemple aussi de la possibilité pour ces personnes de faire tout un chemin dans la responsabilisation de leur acte et aussi de s'approprier d'une part leur délit et d'autre part un projet de vie. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Monsieur Pochon, directeur adjoint aux EPO, établissement de la Plaine de l'Orbe.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie Madame Pont d'avoir associé la prison, je dirais, à ces 2 journées de réflexion qui concernent les patients psychiques en prison. Il est clair que, pour ce qui nous concerne, on n'est pas situé, je ne crois pas que mon intervention aura quoi que ce soit de comparable ou de proches, disons, avec les questions qui se posent pendant ces 2 journées. J'étais malheureusement pas là hier pour assister aux différentes conférences. Je signale également que je ne suis pas conférencier patenté, donc il faudra me pardonner mes incohérences. Je souhaiterais d'ailleurs beaucoup que vous puissiez m'interrompre, me poser des questions, à chaque fois que vous en éprouvez le désir. En principe, c'était M. Pirenne qui aurait dû venir vous parler de cette question difficile de savoir si la prison est compatible avec un projet de réinsertion sociale. Malheureusement il n'était pas disponible, donc je le remplace. Mais vous voyez qu'à plusieurs titres, je suis handicapé. J'aimerais vous dire qu'il y a 20 ans que je travaille en prison, et ça a une certaine importance parce que j'ai commencé en qualité d'assistant social pour le compte du patronage vaudois, mon activité aux EPO, et puis j'ai poursuivi en étant responsable du secteur socio-éducatif de ces mêmes établissements, et je suis depuis une année et demie directeur adjoint, ce qui n'est pas un cadeau. Et je crois qu'il est quand même indispensable et incontournable que je vous pose un petit peu le décor, le terrain, parce que je suis un homme de terrain. Et je pense que même si je reconnais beaucoup de visages, il y en a beaucoup que je ne connais pas, si bien que j'imagine que beaucoup de personnes ne connaissent pas les EPO. Les EPO sont donc des établissements d'exécution de peine. Ils s'inscrivent dans le concordat romain sur l'exécution des peines comme l'établissement fermé. Et ils ont comme particularité d'être composés de plusieurs établissements. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit les établissements de la Plaine de l'Orbe, puisqu'ils comportent 2 entités bien distinctes, le pénitencier d'une part et la colonie d'autre part. D'un côté, on a un établissement fermé, sécurisé, dont la moyenne des peines se situe au-delà de 10 ans. Et de l'autre côté, on a un établissement de basse sécurité qui se situe sur un territoire agricole, un domaine agricole qui a 360 hectares et dans lequel on peut placer des gens qui sont dans un régime, je dirais, de confiance avec l'administration pénitentiaire. Je signale que dans ce lieu d'exécution de peine, la colonie, il n'est pas un exploit de s'évader. Il suffit de courir vite et puis la chose est faite. Mais je vous explique ça parce que ça a une importance dans ce qu'on est appelé à traiter aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelait la progression dans l'exécution, le régime d'exécution des peines. Par rapport à ces établissements, c'est donc le seul établissement fermé pour la Suisse romande au niveau du concordat, puisqu'il existe une structure concordataire qui permet de différencier les établissements pour condamnés primaires de ceux qui concernent les condamnés récidivistes, mais cette différence-là n'est plus beaucoup d'actualité. On a actuellement beaucoup de condamnés primaires qui se trouvent dans le pénitencier du fait de leur dangerosité qui se situe la plupart du temps dans le risque de fuite. Pour ce qui est des EPO, au niveau de l'effectif actuel, on a à peu près 230 détenus qui se partagent à peu près pour... La colonie, le taux d'étrangers est un peu plus bas, il se situe à peu près à 60%. Quant à la question qui nous occupe aujourd'hui, et c'est une question que je me suis posée au moment où j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, le titre de mon intervention étant la prison compatible avec un projet de réinsertion sociale, je me suis demandé est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des détenus. Est-ce que l'ensemble des détenus, et ça je reprends ce que disait le professeur Lamotte tout à l'heure, est-ce que l'ensemble des détenus sont des patients psychiques? Il est vrai que pour notre regard, tous nos pensionnaires sont des détenus, parmi lesquels un certain nombre manifestent des problématiques de patients psychiques, je dirais. Mais il n'en demeure pas moins que pour nous, on a affaire à des détenus dont la peine est en principe à un début, à une fin, exception faite des articles 43, et je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Concernant la prison elle-même, je vous ai dit qu'il y avait 230 détenus actuellement. On a en fait 264 places, y compris la future division psychiatrique qui devrait pouvoir s'ouvrir à la fin de cette année. Alors, parmi cette population, j'ai pris la liberté de, sans vouloir faire d'étiquetage, de situer quatre catégories de personnes qui, selon mes critères, constitueraient des patients psychiques. C'est un peu pour les besoins et la clarté de l'exposé que j'ai créé ces catégories. Et puis ensuite, j'ai fait un peu le tour de l'effectif pour déterminer dans quelle proportion ces personnes étaient représentées. Ces quatre catégories sont d'une part les articles 43. Pour les étrangers à la Suisse, j'imagine que la question a déjà été évoquée hier.
Donc vous situez de quoi il s'agit en matière de loi. Une deuxième catégorie est composée des délinquants sexuels, des abuseurs sexuels. Une troisième catégorie est constituée par les personnes toxicodépendantes. Et une quatrième catégorie souffre de troubles du comportement. Donc, j'ai un peu parcouru la liste de nos effectifs et j'ai constaté qu'au niveau des articles 43, c'est facile à déterminer, je n'ai rien inventé, on en a 21 qui se trouvent aux EPO. Au niveau des délinquants sexuels qui comportent dans leur nombre, un certain nombre d'articles 43 d'ailleurs, une douzaine, on en dénombre 46. Concernant les toxicodépendants, c'est plus arbitraire. C'est en fonction de la connaissance que j'ai des personnes que j'ai déterminé une vingtaine de personnes. Pour ce qui est des troubles du comportement, j'en ai isolé de ma liste 32. Ce qui nous donne, au niveau de l'effectif actuel, une proportion de patients psychiques qui se situerait aux alentours de 50%. Alors, j'aimerais aborder la question qui nous occupe, savoir, avec ces catégories de personnes, donc j'ai volontairement mis de côté les personnes qui ne présenteraient pas des troubles que je viens de citer ou qui n'appartiendraient pas à l'une de ces catégories. La question qui se pose, c'est de savoir si ce qu'on fait en prison peut être compatible avec un projet de réinsertion sociale. Alors, en prenant les articles 43, je me dis qu'il y a, en l'état de la situation, guère d'autres possibilités que d'envisager un placement institutionnel qui se trouve à l'extérieur de la prison, au stade de la connaissance actuelle qu'on a de ces situations. Je ne connais pas beaucoup d'exemples d'article 43 qui ait suivi une autre trajectoire que celle de bénéficier d'un encadrement institutionnel à l'extérieur de la prison. Pour ce qui nous concerne en tant que gestionnaire de la prison, c'est des personnes qui ne posent a priori pas de problème. Je dirais qu'en l'espace de 5 ans, on a constaté que le nombre des articles 43 ayant fortement augmenté, c'est des gens qui s'intègrent mieux. Et puis qu'au niveau du travail en particulier, parce que c'est une donnée, je crois, qui a son importance, la loi suisse prévoit que le travail est obligatoire en prison. Il est donc obligatoire pour les patients psychiques également. Et à ce niveau-là, on constate que c'est des personnes qui s'adaptent de façon tout à fait correcte au niveau de l'exigence du travail. Donc, si on n'a pas cette solution de placement en institution au moment de la libération à l'essai pour ces personnes, je vois mal qu'on puisse parler de réinsertion dans notre société depuis la prison vers l'autonomie immédiate. Quant à la deuxième catégorie, qui est constituée par les... On trouve dans cette catégorie, comme je vous ai dit, un certain nombre d'articles 43, plus un certain nombre de peines définies dans le temps. Et là, je dirais que la solution de réinsertion sociale qui concernerait cette catégorie de personnes qui ne sont pas sous l'article 43 que je viens d'évoquer, la seule solution de préparation correcte à la réinsertion serait la libération conditionnelle qu'on assortirait à ce moment-là d'un certain nombre de conditions d'encadrement pour que on puisse admettre que la société reste protégée des agissements de ces personnes. On a des exemples délicats de personnes qui sont dans le déni et qui le sont du premier jour, et au fil du temps, chaque jour un peu plus, et qui sont dans un tel déni d'ailleurs qu'on ne peut même pas imaginer qu'ils puissent en revenir, au sens où ils se sont convaincus qu'ils n'étaient plus l'auteur de l'abus. Et pour cela, la question, à mon avis, reste entière de savoir comment on va pouvoir négocier une sortie sans risque, puisque la libération conditionnelle ne peut pas être adaptée à ce genre de personnes, et puis que la peine a une fin qui est définie dans le temps, et puis que après il a une durée de tant d'années, eh ben, il y a une libération définitive qui s'impose et contre laquelle on ne pourra rien faire. Donc, je reviens à cette idée que la libération conditionnelle devrait être quasi incontournable pour ce genre de situation, pour nous permettre de mettre en place des garde-fous au moment de la sortie. Concernant le traitement qui peut se faire à l'intérieur de nos murs, en dehors de l'intervention médicale, il est peut-être aussi utile que je vous signale qu'on est organisé avec des régimes différenciés aux établissements de la Plaine de l'Orme, ce qui nous permet de prévoir que l'exécution de la peine se fasse selon une progression qui a une certaine logique. Ces régimes sont les suivants. Il y a le régime des arrivants, donc le détenu arrive chez nous et puis il est placé dans un régime particulier qui est destiné aux arrivants, qui nous permet de faire une observation de quelques jours. Ensuite de quoi, il passe au minimum un mois dans un régime dit d'évaluation. Ce régime permet au personnel de surveillance et au personnel social de mieux connaître la personne, de faire des observations qui sont relatives à son comportement en rapport avec des facteurs comme l'hygiène, comme la discipline, comme le comportement relationnel vis-à-vis du personnel et des co-détenus. Et à l'issue de ce mois d'observation, on demande aux détenus de signer un contrat de passage au régime suivant, qu'on a appelé le régime de responsabilisation, contrat par lequel ils s'engagent à avoir un comportement adéquat, à respecter les règles de la vie collective, aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau de ses codétenus, et puis à accepter l'obligation de travailler. Alors, ces régimes de responsabilisation, on en trouve un au pénitencier, c'est là donc qu'on a l'effectif le plus important. Et pour la colonie, on a deux régimes qui sont le régime responsabilisation. Donc on peut placer éventuellement des détenus qui seraient convoqués ou qui arrivent de leur plein gré, je dirais, pour subir leur peine directement à la colonie en responsabilisation. Et puis on a une dernière phase, un dernier régime qui est celui de la section ouverte. Donc ces régimes permettent d'avancer. On peut imaginer, et dans l'idéal d'ailleurs, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est qu'à dater du jour où le détenu qui a une assez longue peine a honoré une première sortie, on puisse le passer du pénitencier à la colonie. Et puis qu'à partir de là, la progression se poursuive. Je reviens là-dessus parce que quand on évoque le cas des articles 43 ou des délinquants sexuels, je citerai le cas d'un détenu qui a commencé par arriver chez nous à la colonie et puis qui a régressé jusque dans le régime de sécurité renforcée, qui se trouve être le seul régime dans lequel on puisse placer un détenu qui a péjoré toutes les relations à l'autre, au niveau des co-détenus d'une part, mais du personnel également, et qui est un régime très strict, qui prévoit que le détenu est isolé 23 heures sur 24 par jour, donc exception faite d'une promenade. Et c'est là qu'on retrouve actuellement des personnes qui souffrent de maladies qui sont des patients psychiques avérés et pour lesquels on n'a pas d'autre solution. Et je constate que c'est une situation très difficile à gérer parce que dès le moment où on en arrive à cette extrémité à devoir placer les gens dans un régime d'isolement complet, il est difficile d'imaginer comment on peut repartir dans la bonne direction, je dirais. C'est-à-dire refaire le chemin qui va vers l'ouverture. Et puis de reprendre, disons, la progression dans le bon sens. Plutôt que de se retrouver, il faut dire aussi que ce régime de d'évaluation permet effectivement le retour en arrière. Ça ne s'applique pas uniquement aux détenus qui auraient des problèmes de santé psychique, ça s'applique également à d'autres détenus qui n'auraient pas respecté, par exemple, certaines règles internes. La troisième... Ouais, je voulais dire encore une chose par rapport aux abuseurs sexuels. On se retrouve dans cette nécessité, au moment où on examine la libération conditionnelle, de prévoir toutes sortes de contrôles qui peuvent aller jusqu'au contrôle social soutenu qui vient d'être mis en place au niveau du patronage vaudois. Donc ça permet tout de même d'avoir des petits murs autour de et un cadre autour de la personne qui est libérée. Si on aborde la question des personnes toxicodépendantes, les moyens que nous détenons aux établissements de la Plaine de l'Or pour l'instant sont pas énormes. On a fait la tentative de mettre en place des contrats pluridisciplinaires pour certaines catégories de détenus. On admet qu'aux EPO, on a une certaine capacité d'accueil pour des personnes toxicodépendantes qui seraient sous cure de méthadone. Et là, on a mis en place un travail de collaboration entre les différents secteurs de la sécurité, du secteur médical et du secteur socio-éducatif. On peut, dans certains cas, travailler la motivation au changement de certains détenus toxicodépendants et en leur proposant de demander un transfert dans un établissement de traitement, ce qui peut être le Levant, qui peut être l'établissement de Pacha qui se situe à Genève ou éventuellement les rives du Rhône en Valais. Je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas de personnes toxicodépendantes qui acceptent d'entrer en matière. Un problème réel avec lequel on doit composer aux EPO, c'est que la plupart des personnes toxicodépendantes qui sont consommatrices se trouvent à la colonie. La colonie, comme je vous l'ai dit, est un vaste domaine agricole. Donc, il favorise l'entrée des drogues, ce qui veut dire aussi que pour les personnes toxicodépendantes, la tentation est bien présente et le fait que cette tentation soit présente fait que il n'y a pas d'accrochage facile pour que les personnes se lancent dans une démarche de changement. Concernant cette catégorie de personnes, là aussi, il m'apparaît que la solution d'une libération conditionnelle soit la meilleure par rapport à la réinsertion sociale, au sens où là aussi on peut mettre des conditions telles que un suivi par les institutions à l'extérieur qui s'occupent de suivi, et puis dans bien des cas des suivis médicaux. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'un certain nombre de ces détenus pour lesquels on pratique des contrôles sous forme de prise d'urine, un certain nombre de détenus se retrouvent, en raison de contrôles positifs, se retrouve dans un premier temps sous le coup d'une sanction disciplinaire, donc d'une peine d'arrêt qui peut varier de 3 à 8 jours, et qu'en cas de récidive multiple, le parcours se termine en division d'évaluation. Et si on se trouve dans cette situation-là, ça signifie qu'avant de sortir, le détenu se trouve dans un lieu très contraignant duquel on ne peut rien préparer, depuis lequel on ne peut pas imaginer de mettre en place un suivi à la sortie ou un placement dans un lieu approprié. Alors, c'est des questions délicates et difficiles pour nous parce que ça veut dire qu'au moment où la personne va sortir, quelles sont ses possibilités en dehors de la récidive ou de l'overdose, et on a vu des cas de ce type. Eh bien, pour nous, c'est un problème sans fond, je dirais. Le cas des personnes qui souffrent de troubles du comportement nous pose aussi d'énormes problèmes parce que pour ceux-là, il peut y avoir des problèmes qui sont liés à leur capacité d'être réguliers au travail. Et là aussi, on se trouve constamment confronté entre le devoir de faire respecter des règles et le devoir d'éducation, je dirais, ou de réhabilitation de la personne. Et tous ces éléments sont bien souvent contradictoires. Alors, moi, je dirais que, en fonction de ce qui a été évoqué, je considère que je fais le constat qu'on a un effectif élevé de détenus qui ont des problèmes de santé psychique. L'autre constat que les solutions sont limitées à des placements institutionnels ou à un encadrement spécialisé, en dehors de quoi nous sommes relativement impuissants. Je constate également que ces catégories de personnes s'adaptent plutôt bien à la prison, ce qui constitue et ce qui entraîne une augmentation des difficultés de réinsérer ces personnes. Et on a vu le cas de personnes, après avoir mis en place un système de valorisation des postes de travail, qu'on a appelé postes de travail à responsabilité particulière, et qui font l'objet à la colonie d'un contrat spécial, que les premières personnes qui ont pu bénéficier de ces postes étaient ou des articles 43 ou des délinquants sexuels. Donc il y a là un phénomène d'adaptation qui est tout à fait parlant. Et je ne pense pas que ce soit une liaison favorable, au sens où ce n'est pas des personnes, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, elles étaient plutôt destinées, une fois, après avoir quitté les EPO, à entrer dans des institutions où ce n'est pas la première des exigences que le travail. Donc là, on est un peu dans une problématique complexe. Je dirais qu'en définitive, ce qui est important pour la prise en charge de ces personnes, c'est d'intensifier la communication des informations entre les différents partenaires. Je pense aux partenaires du service médical, du service socio-éducatif et du personnel sécuritaire, en signalant que ce dernier-là est confronté de très très près à la problématique, aux problématiques les plus sévères. Quand je vous parlais des régimes spéciaux dans lesquels on arrive à placer des personnes qui ont de gros problèmes de santé psychique, la prise en charge la plus immédiate et la plus directe se fait par le personnel de sécurité. Et au quotidien, et de façon, je dirais, très, très présente, au sens de l'écoute, au sens de l'accompagnement de ces personnes, et que bien qu'on puisse regretter de ne pas pouvoir aller dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la progression, on peut admettre que les choses augmentent malgré tout dans ces régimes les plus fermés en raison de l'intervention du personnel présent. En matière de collaboration, j'aimerais signaler aussi que ce qui a été mis sur pied depuis un certain nombre d'années et qu'on appelait les réseaux, parce que ce sont des réseaux, c'est une façon tout à fait intéressante d'arriver à cerner et puis à faire des propositions en matière d'exécution de peine, que d'associer autour de la situation d'une personne détenue, que d'associer d'une part un représentant de l'exécution des peines, un représentant, deux représentants de la surveillance. On associe en général le chef d'atelier ainsi que le chef, le surveillant chef de maison, un ou deux représentants du service social, un représentant de la direction, un représentant du service médical, voire deux, en principe il y a un médecin et un infirmier, une infirmière, et ces réseaux nous permettent de se mettre d'accord sur le plan d'exécution de peine qui est projeté de façon individualisée. Ça permet également de faire des propositions les plus cohérentes au niveau de l'organe qui a été institué, qui s'appelle la commission interdisciplinaire consultative, qui traite du cas des personnes qui sont dans ces catégories que je viens de citer. Donc cet outil de travail me paraît précieux et me paraît être un outil qui permet d'avancer, en tout cas en ce qui concerne la préparation d'un plan qui devrait conduire la personne vers la liberté, en rappelant que la liberté, en l'occurrence pour ces personnes, est restreinte par un certain nombre de conditions qu'on peut poser. Et je signale encore que il m'apparaît que l'interdisciplinarité est indispensable pour parvenir à définir de quelle intégration on parle. Si on ne se met pas d'accord sur cette terminologie-là, je crois qu'on n'arrive pas non plus à un résultat. Et puis, je dirais qu'enfin, que tous les moyens que l'on pourrait mettre en place ne valent que pour autant qu'un minimum d'adhésion se manifeste de la part du détenu concerné. Et je crois que dans ce domaine-là, il est illusoire d'imaginer de pouvoir faire à la place du détenu un travail vers le changement. Voilà, moi je vous ai livré là mes quelques impressions générales et je réponds volontiers aux questions que vous pourriez poser.
Alors, Monsieur Pochon me dit qu'il ne sera pas là au débat ce soir. Et je profite alors de donner la parole au public. Si vous avez des questions, des précisions, profitez pendant que Monsieur Pochon est encore là.
Oui, bonjour, docteur du Rivage du Québec. Les travaux chez nous ne sont pas obligatoires. La plupart des détenus travaillent. Mais qu'est-ce que vous faites avec les détenus qui refusent de travailler? Et quel genre d'emploi font-ils aussi, par curiosité?
On les punit. Non, mais c'est vrai, on les punit.
C'est normal.
Mais je vais vous répondre plus largement. On les punit de fait parce que cette obligation figurant dans la loi pénale, elle nous oblige aussi à fournir du travail pour tout le monde. C'est une première chose. Et puis, lorsque quelqu'un refuse de travailler, il s'aliène un certain nombre de commodités. C'est-à-dire que sans travail, il ne reçoit pas de pécule. Et peut-être contrairement à des prisons de l'étranger, les détenus chez nous n'ont pas le droit de recevoir de l'argent de l'extérieur pour leurs besoins quotidiens. Donc ils doivent se satisfaire de l'amélioration de leurs conditions avec leur pécule. C'est-à-dire qu'avec leur pécule, ils paient leur téléphone, ils paient leur cantine. Donc ça, c'est déjà en soi une punition pour celui qui refuse de travailler. Mais si son refus est persistant, il sera placé dans un endroit dissuasif. Alors, un endroit dissuasif, c'est par exemple l'évaluation, puisqu'il va perdre un certain nombre d'avantages qu'il rencontre quand il se trouve en responsabilisation. Pour vous donner une idée, l'horaire quotidien du régime d'évaluation, c'est 3 heures de travail en atelier, 1 heure de promenade, 1/2 heure pour la douche, le reste du temps est passé en cellule. Si vous passez en responsabilisation, les détenus se trouvent à peu près 12h30 hors de leur cellule, entre le temps de travail et le temps de loisir.
Quel genre de travaux font-ils?
Alors, pour les travaux sont évidemment différents entre le pénitencier et la colonie. Au pénitencier, on a des ateliers tels que imprimerie, cartonnage, les travaux du bois, la menuiserie, une mancherie qui fabrique des manches de pelles et de pioches, ou une boulangerie. On a également des ateliers qui sont plus d'intendance, comme la buanderie. Donc, en principe, là, on a du travail pour tout le monde. Pour ce qui est de les poulets sont à la colonie. Donc,
la liberté.
Donc, plus de liberté. Alors, c'est vrai qu'à la colonie, on a d'autres types de travaux. On a quelques ateliers. Et puis, l'essentiel de l'effectif des détenus travaille dans l'agriculture, avec du bétail, avec les poulets aussi. Mais en définitive, on n'a pas beaucoup, on rencontre finalement très peu souvent de problèmes avec des personnes qui refuseraient de travailler, sauf dans les cas que la loi n'a pas réglé, de personnes qui se trouvent être à l'AI l'assurance invalidité en Suisse, avant d'être en prison, et pour lesquelles il y a une espèce de contradiction de les obliger à avoir une activité de travail. Mais la plupart des gens demandent à pouvoir travailler parce qu'il semble que le temps passe plus vite.
Oui, si j'ai bien compris, Monsieur Pochon, le détenu qui, en tribunal, a plaidé non coupable et qui a invoqué en tout cas le bénéfice du doute, qui n'a pas été suivi, qui a été condamné, et qui, pendant sa détention, persiste dans cette attitude, ne peut espérer aucune sortie et aucune libération conditionnelle. Je dois dire que, comme avocat, c'est une pratique, si telle est bien la pratique, si j'ai bien compris, qui me choque profondément.
Oui, alors, dans ce type de situation, moi, je reconnais que ce n'est pas des situations qui nous mettent à l'aise, parce qu'on est face, effectivement, à une question sans fond, à savoir si, a priori, nous sommes plutôt les hôteliers, donc nous ne sommes pas là pour remettre en question le jugement.